Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je n'aimerais pas laisser passer la fête de Saint-Pédis, sa fête hier, le 3 septembre, sans vous en parler aujourd'hui au cours de ce sermon. Il est très difficile d'être pape et canonisé en même temps. Dans les cinq derniers siècles, il n'y a que deux personnes qui ont pu franchir cette canonisation en tant que pape, Saint Pie V au XVIe siècle et Saint Pie X au XXe siècle. Donc je vais vous parler un petit peu de ces choses-là, ça me semble important aujourd'hui, évidemment, on est dans un tas d'états de décomposition morale de la société en général, et surtout de la société à Rome, société ecclésiastique à Rome, qu'on finit par oublier un peu ce que devrait être un pape. Alors tout est résumé dans la devise que Saint Pédis avait choisie. Il avait choisi comme devise « Omnia instaurare in Christo », « Tout restauré dans le Christ ». Dans le sens de « Tout récapitulé dans le Christ ». Récapituler dans le Christ, ça veut dire quoi ? Caput en latin, c'est la tête. Tout récapitulé dans le Christ, ça veut dire que le Christ devienne la tête de tout, toute chose. C'est ce qu'on appelle le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est justement que notre Seigneur Jésus-Christ soit roi de toutes choses, toutes ses créatures. Pas simplement des catholiques, mais aussi bien sûr des non-catholiques, pas simplement dans la vie privée, mais aussi dans la vie publique, pas simplement de l'Église, mais aussi dans l'État, pour que notre Seigneur Jésus-Christ soit reconnu comme roi, chef, Dieu et homme. Guide de toutes nos âmes afin que nous puissions un jour nous retrouver tous au ciel. Voilà donc ce qu'a fait Saint Pédis. Et Saint Pédis a une caractéristique assez particulière. Saint Pédis fait partie de ces rares papes, comme Saint Pie V d'ailleurs, qui ont monté très lentement l'échelle ecclésiastique. Beaucoup des papes étaient devenus papes à la suite d'une carrière diplomatique dans l'Église. Et évidemment, c'était des ascensions assez rapides vers les hauts sommets de l'Église. Le pape Saint Pédis, au contraire, venait d'une famille très simple, comme Saint Pie V, et il a commencé tout à fait en bas de l'échelle. Après son ordination au sacerdoce, c'est que Saint Pédis a été pape de 1903 à 1914. Après son ordination, il a d'abord été vicaire d'un petit village au nord de l'Italie, Tombolo. Ensuite, il est devenu curé à Salzano, puis directeur du séminaire de Trévise. Et enfin, le pape Léon XIII l'a nommé évêque de Mantoue, puis cardinal de Venise avant de devenir pape en 1903. Et je voudrais utiliser donc cette histoire, justement, cette ville de Saint-Pédis, pour nous faire comprendre quel est le rôle du pape. Saint Pédis a été d'abord, évidemment, le pape, si vous voulez, qui a vraiment bloqué au maximum l'entrée des hérésies dans l'Église. Vous savez que c'est le pape Saint Pédis qui, en 1907, alors qu'apparemment, je dirais apparemment, extérieurement, il y a un grand ciel bleu dans l'Église. Le pape Saint Pédis savait qu'à l'intérieur de l'Église, dans les sous-bassements de l'Église, il y avait des ennemis acharnés de l'Église qui cherchaient à corrompre les fondations mêmes de l'Église. Et que ces ennemis de l'Église, qui étaient extrêmement forts parce que justement ils faisaient partie de l'Église, avaient en quelque sorte inventé une doctrine qui était l'égout collecteur de toutes les hérésies. Et cet égout collecteur de toutes les hérésies, il appelait ça le modernisme. Alors qu'apparemment, extérieurement, tout était parfait, il a dit attention, les modernistes sont déjà à l'œuvre dans l'Église, par leur subjectivisme pour saborder les intelligences, empêcher les intelligences d'atteindre le vrai. Et Saint Pédis a donc condamné le modernisme très fermement par une encyclique magnifique qui s'appelle Pascendi Dominici Gregis en septembre 1907. Saint Pédis n'a pas fait que cela. Il a fait une réforme profonde de l'Église, des hommes d'Église, effectivement, des institutions à l'intérieur même de l'Église, en réformant profondément l'ensemble des dicastères de Rome. Il a réformé le bréviaire. Il a aussi, et ça c'est pas un détail, c'est lui qui a donné la communion aux petits-enfants. Vous savez que Saint Pédis vivait à une époque où la communion des enfants avait lieu très tardivement, pas avant 13 ou 14 ans en général. eh bien, le Saint-Pape Saint-Pédis a exigé qu'il y ait un changement dans les mœurs, pour que dans les coutumes, pour que les enfants puissent communier dès qu'ils seraient capables de distinguer, distinguer entre le pain ordinaire et le pain eucharistique. Et il a eu d'énormes difficultés à faire rentrer ça dans les mœurs sacerdotales. Les prêtres ne voulaient pas suivre ses ordres. Vous connaissez tous sans doute l'histoire de Saint-Pédis qui un jour reçoit un groupe de pèlerins français qui étaient là avec leur curé. Et ils étaient tous en train de parler avec le pape. Le pape est en train de parler avec le curé qui présentait ses paroissiens au Saint-Père. Et voilà qu'un petit enfant, tout petit, qui avait 5 ans, lâche la main de sa maman, se précipite vers le Saint-Père et lui dit: « Très Saint-Père, je voudrais communier. » Alors le curé, évidemment, affolé, s'approche et dit: « Saint-Père, il n'a que 5 ans. » Et le pape Saint-Pédis l'a pris à part et lui a dit: « Pourquoi voulez-vous communier ?» Et l'enfant a répondu: « Parce que je voudrais recevoir Jésus dans mon cœur. » Et qui est Jésus? Le Fils de Dieu. Le pape a pris l'enfant par les mains, l'a ramené à ses parents et lui a dit: « Vous me l'amenez demain à la chapelle Sixtine, demain matin, et je lui donnerai la communion moi-même au cours de ma messe. » Et le petit garçon a fait sa première communion des mains, a reçu la première communion des mains même de Saint-Pédis à 5 ans. Alors mes bien chers frères, essayons d'utiliser un peu cet exemple magnifique que nous donne Saint-Pédis. Je n'ai pas le temps évidemment d'expliquer tout le travail qu'il a fait. Il a énormément œuvré aussi pour réformer les séminaires, pour rendre, si vous voulez, confiance aux prêtres. Les prêtres étaient complètement découragé déjà à son époque. Alors il va faire toute une série d'encycliques pour essayer, surtout la première, Errant animo, pour essayer justement de rendre confiance à ses prêtres. Il a obligé en quelque sorte les prêtres à tous centrer de nouveau sur notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait vu ça justement parce qu'il avait été évêque dans une petite ville, évêque de Mantoue. Et en tant qu'évêque, déjà il le faisait. Le pape Saint-Pédis prenait son cheval et sans prévenir personne, tout seul, il allait surtout le samedi après-midi, lorsque le prêtre devait être au confessionnal, il allait dans les villages et il se faisait même pas introduire dans les villages. Il attachait son cheval à côté de l'église et en rentrant dans l'église où les gens tuaient le curé qui était évidemment pas à sa place, il se mettait lui-même au confessionnal. Et les gens se confessaient à lui sans savoir qui il était. Alors évidemment, il y a toujours quelqu'un qui venait avertir le curé, un monsieur qui t'aurait confessé au confessionnal, on ne sait pas qui c'est, un prêtre. Alors, le curé, évidemment, furieux, arrivé en trompe dans l'église, ouvrait la porte centrale du confessionnal, furieux, tombé nez à nez avec son évêque, qui lui rappelait qu'il aurait dû être là au confessionnal. Et donc Saint-Pédis avait compris toutes ces choses-là. Voilà pourquoi il a voulu tout recentrer sur le Christ, omnia in storare in Christo, dire en fait tout ressourcer, tout récapituler, tout centrer sur le sacerdoce lui-même et sur la Sainte Eucharistie. Et je voudrais utiliser rapidement, par manque de temps, cet exemple de Saint-Pédis pour nous rappeler justement que l'Église a été fondée par notre Seigneur Jésus-Christ et est supposée transmettre son message par l'intermédiaire de son vicaire, le pape. Et il faut faire attention aujourd'hui, manifestement, nous sommes depuis maintenant quoi, plus de 50 ans orphelins d'autorité, surtout pour les enfants. Les enfants qui n'ont jamais connu un pape. Il faut nous rappeler justement ce qu'est un pape. On a parfois, et c'est bien triste, des jeunes. Et je peux les comprendre à certains côtés qui nous disent, surtout au cours des retraites, mais monsieur l'abbé, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un pape? Et il faut leur répondre, mais ouvrez les yeux et regardez ce qui se passe maintenant dans l'église. Voilà le résultat justement d'une église qui n'a plus de pape, qui n'a plus de chef. Comme une armée qui n'a plus de chef, évidemment, c'est la débandade dans les soldats, c'est la même chose dans l'église catholique. Le bon Dieu a institué son église, une sainte catholique et apostolique, pour que cette église soit le corps mystique du Christ. Que cette église soit justement celle qui nous amène vers le bon Dieu. Il a voulu à la tête de son église un vicaire. dont le rôle essentiel, capital, est de conserver le dépôt de la foi. Conserver le dépôt de la foi qui est clos à la mort du dernier des apôtres, Saint Jean. Donc le rôle du pape, le rôle du Saint-Père, c'est de conserver intact, sans aucun changement, ce qui lui a été transmis. Donc il a reçu en quelque sorte comme un facteur qui reçoit par sa main droite une lettre qu'il a transmise à la personne suivante, le pape, le facteur qui va le suivre. De la même façon, le pape dans l'Église catholique est quelqu'un qui reçoit le dépôt de la foi catholique comme un coffre absolument scellé dans lequel rien d'autre ne peut rentrer. Il ouvre le coffre pour pouvoir utiliser toutes les grâces qui sont contenues dans ce coffre, toutes les vérités et les dogmatiques de l'Église catholique et les transmettre aux générations suivantes en les expliquant d'abord aux générations actuelles. Voilà le rôle du pape. Et puisque ce rôle est un rôle absolument extraordinaire, une responsabilité énorme, garder le dépôt de la foi, c'est pas rien. Puisque le rôle de ce pape est tellement important, Dieu a voulu donner au pape un charisme extraordinaire, un don extraordinaire. Pour que justement celui-ci puisse remplir sa mission, le bon Dieu a voulu donner au pape le charisme de l'infaillibilité. Le pape est infaillible. Dans son magistère ordinaire, dans son magistère extraordinaire, lorsqu'en tant que pape, il parle sur la foi et les mœurs à toute l'Église avec intention d'obliger l'Église. Et donc le pape, dans ce cas-là, reçoit du bon Dieu des lumières très tout à fait particulières pour être infaillible dans la foi et les mœurs. Attention, le pape a reçu la lumière de l'infaillibilité, il n'a pas reçu la lumière de l'Immaculée Conception. Il n'est pas impeccable, il est infaillible, c'est pas pareil. Le pape est infaillible dans le sens qu'en matière de foi et de mœurs, quand il parle comme pape avec l'intention d'obliger l'Église, eh bien le pape est infaillible. Mais en matière privée, il peut pécher contre n'importe laquelle des vertus. C'est pour cela que le pape a tenu de se confesser comme les autres. Qu'un des postes importants à Rome, c'est le poste de confesseur du pape. Bien le faire comprendre justement que le pape est infaillible, n'est pas impeccable. Et donc le pape va devoir utiliser cette... est obligé, il ne peut pas faire autrement puisqu'il est pape. Il est obligé, il doit utiliser cette infaillibilité à chaque fois qu'il parle sur la foi et les mœurs. Et c'est ce que l'Église a fait pendant 20 siècles. Pendant 20 siècles, les papes ont toujours utilisé cette infaillibilité. Il ne faut pas croire que cette infaillibilité pontificale est arrivée comme ça d'un seul coup, comme un champignon après la pluie, en 1870, au moment où ça a été déclaré, le dogme a été déclaré par le pape Pie IX au Concile Vatican Ier. Cette infaillibilité a toujours été crue dans l'Église. Le premier pape infaillible en matière de foi et de mœurs, c'est Saint-Pierre. Saint-Pierre était infaillible en matière de foi et de mœurs, et tous les papes qui ont suivi, jusqu'au pape Pie XII inclus, ont tous été infaillibles en matière de foi et de mœurs. Justement parce qu'ils devaient conserver le dépôt de la foi pour transmettre dans son intégralité ce dépôt de la foi aux générations futures. Voilà le rôle du pape. Il est évident qu'il est absolument impossible pour un pape d'une certaine année de dire infailliblement le contraire de ce qu'un autre pape a infailliblement déclaré quelques siècles auparavant. C'est du bon sens élémentaire. Un enfant de 5 ans comprendrait cela. Et donc, si malheureusement aujourd'hui on constate que depuis l'année 1958, en fait, depuis la mort du pape Pie XII, il est mort, si mes souvenirs sont exacts, en octobre 58, depuis la mort du pape Pie XII, on est bien obligé de constater que ceux qui se présentent comme pape, actuellement, depuis Jean XXIII jusqu'au clown qui dirige l'église de Vatican II, François aujourd'hui, et on est bien obligé de constater que non seulement il ne garde pas le dépôt de la foi, mais il fait tout pour la détruire. Alors est-il possible pour un pape infailliblement aujourd'hui de parler sur la foi des mœurs en disant le contraire de ce qu'un pape infaillible, les papes infailliblement ont enseigné et donné à tous les fidèles pendant des siècles et des siècles? La réponse est absolument évidente, bien sûr que non. Alors l'Église catholique est en train de mourir? Non. L'Église catholique, mes bien chers frères, est divine, étant divine, ne peut pas être contaminée. C'est absolument impossible. Pour ça, je réponds toujours les gens qui me disent, Monsieur l'Abbé, pendant combien de temps va-t-elle durer cette crise de l'Église? Je réponds toujours, il n'y a pas de crise dans l'Église. L'Église est divine, ne peut pas être en crise. L'Église est une sainte catholique et apostolique et sera une sainte catholique et apostolique jusqu'à la fin des temps. Personne ne peut supprimer la sainteté de l'Église. Le bon Dieu n'a jamais dit qu'il y aurait des millions de personnes dans son église. Il a dit le contraire, en fait. Il a dit à la fin des temps, quand je reviendrai, qui sait si je trouverai encore la foi dans l'église. Rappelez-vous la prophétie aussi d'un grand évêque, l'évêque de Chartres, Cardinal Pi, qui avait vu déjà, qui savait que des temps terribles allaient arriver pour les catholiques. Et qu'il a dit un jour, les temps viendront, disait-il, où l'église sera réduite à des dimensions domestiques. Une famille par-ci qui garde la foi, une famille par-ci qui garde la foi, une famille par-là qui garde la foi, un peu dans le monde entier, quelques petites lucioles qui brûlent sur les familles catholiques. Alors, il ne faut pas, mes bien chers frères, ne pas se décourager si nous avons peu de monde. Ne pas se décourager si peu de gens dans le monde catholique, dans le monde tout simplement en général aujourd'hui, gardent la foi. L'important, c'est que nous la gardions. Que vous et moi, nous fassions partie de l'Église catholique. L'Église catholique, elle est ici. Elle n'est pas qu'ici, bien sûr, mais elle est ici aussi à partir du moment où nous gardons ce que l'Église a toujours enseigné, que nous remplissons les conditions d'appartenance de l'Église catholique, à savoir d'être baptisé, d'avoir la foi, de la pratiquer, d'utiliser les sacrements et de reconnaître le pape comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes catholiques, nous appartenons au corps mystique du Christ. Voilà, mes bien chers frères, ce que vous devez impérativement transmettre à vos enfants. Malheur aux parents qui ne transmettent pas. Oui, mais bien cher frère, ce qu'il nous faut comprendre. Donc il ne faut pas aujourd'hui nous laisser contaminer par les mauvaises idées. Et c'est précisément parce que, hélas, beaucoup de prêtres, même dans la tradition, n'ont pas compris ces choses-là que nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui. Nous voyons ces catastrophes partout. Regardez ce qui est arrivé à la fraternité sacerdotale Saint-Pilis. Pauvre Monseigneur Lefebvre, il faut se retourner dans sa tombe de voir ce qu'est devenu la fraternité sacerdotale Saint-Pilis. Et d'où viennent ces erreurs, d'où vient cette destruction complète de la fraternité sacerdotale Saint-Pilis? Tout simplement du fait que ces catéchismes élémentaires ont été oubliés. Là, je voudrais dire un mot parce que je pense que c'est important aujourd'hui. Il faut de plus en plus l'affirmer pour nous protéger. Monseigneur Felet, supérieur général de la fraternité sacerdotale Saint-Pilis, dit deux hérésies. Et il oblige tous ses prêtres à suivre ces deux hérésies. La première de ces deux hérésies, c'est de faire croire que l'Église de Rome est l'Église catholique. C'est vrai, c'est un sophisme, parce qu'il est vrai que l'Église catholique est l'Église de Rome, est fondée sur l'Église de Rome. À condition que l'Église de Rome soit catholique, l'Église catholique est une sainte catholique et apostolique, mais malheureusement, l'Église du Vatican II n'a plus rien à voir, de près ou de loin, avec l'Église catholique. Il n'y a plus rien de commun entre l'Église du Vatican II, fondée, comme son nom l'indique, à Vatican II, et l'Église catholique. Donc de dire aujourd'hui que pour être catholique, il faut être avec l'Église du Vatican II, c'est une trahison ouverte, plénière. On ne peut absolument pas dire ça. Il faut donc rappeler à temps et à contre-temps que l'Église du Vatican II n'a plus rien à voir, de près ou de loin, avec l'Église catholique. La deuxième hérésie enseigné par Mgr Velay, c'est de faire croire que ex cathedra, le pape est affaibli quand il parle ex cathedra, qu'ex cathedra ça veut dire extraordinaire. Ça aussi c'est une hérésie gravissime. Parce que ça laisse entendre que le pape n'est infaillible que dans son magistère extraordinaire. C'est très pratique parce que le magistère extraordinaire de l'Église catholique il est utilisé à peu près une fois par siècle tous les 150 ans. Donc quand le pape utilise son magistère extraordinaire, enseigne dans le magistère extraordinaire, on est obligé d'obéir, tout le reste du temps on fait ce qu'on veut. En gros, c'est ce qu'ils font. Ça, c'est inadmissible. Le pape est infaillible, mes bien chers frères, dans son magistère ordinaire. C'est écrit noir sur blanc dans la constitution Pastor Eternus de Vatican I. Que justement, le pape a cette protection, non simplement dans la foi et les mœurs de manière extraordinaire, mais aussi de façon ordinaire, sinon ça servirait à quoi? Ça servirait à quoi pour un pape d'être infaillible une fois tous les 150 ans? Si dans la pratique de tous les jours, dans l'enseignement qu'il donne, dans les cours qu'il donne, dans les sermons qu'il donne le dimanche, dans l'enseignement de ses encycliques, il n'était pas aussi infaillible. Ce serait une apostasie, une absurdité. Alors, mes bien chers frères, accrochons-nous à la foi catholique. Nous avons avec nous 2000 ans d'histoire. Nous avons avec nous tous les papes qui, depuis Saint-Pierre jusqu'à Pie XII, ont enseigné la foi catholique. Laissons les ânes braire, mes bien chers frères. Laissons les ennemis de l'Église qui veulent cesser de nous faire peur et font du bruit à côté de nous. Laissons-les dire tout ce qu'ils veulent. Conservons la foi, transmettons la foi à nos enfants afin que justement nous puissions sauver nos âmes. La conservation de la foi n'est pas quelque chose de facultatif, mes bien chers frères. C'est un devoir élémentaire de tout catholique. À partir du moment où on est baptisé pour toute l'éternité. Le bon Dieu lui-même ne peut pas ôter le sacrement, le caractère baptismal qui est inscrit sur notre âme après le baptême. Et si mercredi, j'ai encore la joie de pouvoir baptiser un autre adulte, si nous avons une trentaine de baptêmes d'adultes par an, eh bien, si j'ai la joie de baptiser encore un adulte ce mercredi, c'est ce que je vais lui dire. Je lui dis, attention, je vous baptise aujourd'hui. Vous avez maintenant une double obligation, d'abord de conserver la foi jusqu'à la fin de vos jours, et ensuite, puisque vous êtes marié, vous allez avoir l'obligation de conserver la foi dans vos enfants, dans votre ménage, afin que vos enfants conservent la foi eux aussi. Et malheur à vous si vous ne transmettez pas ce que je vous donne aujourd'hui. Oui, bien chef, ce qu'il nous faut comprendre. En demandant avec beaucoup d'humilité toutes ces grâces à notre Sainte Vierge Marie. Elle est gardienne de la foi. Notre Sainte Vierge Marie de nous aider à conserver la foi dans notre cœur. Et ne pas laisser justement le modernisme et les goûts collecteurs de toutes les hérésies dont parle Saint Pédis, ne pas laisser ce modernisme entrer dans nos âmes pour tout détruire, nous n'avons pas le droit. Puisque nous sommes gardiens de ce dépôt, nous devons donc défendre ce dépôt de la foi dans nos âmes, dans nos familles, je dirais avec nos ongles littéralement. Alors attention, comment garde-t-on le dépôt de la foi? La première façon de garder le dépôt de la foi, le premier moyen de garder le dépôt de la foi, c'est d'avoir la force du bon Dieu avec soi. Cette force du bon Dieu avec soi, comment l'obtenons-nous? Cette force du bon Dieu avec nous-mêmes, nous l'obtenons par l'état de grâce. Donc par la pratique de la confession, par la pratique de la communion. Comment voulez-vous que quelqu'un qui ne se confesse jamais, qui ne communie jamais un état de grâce, puisse garder le dépôt de la foi en lui? C'est impossible. Il laisse toutes les portes de sa maison grandes ouvertes. C'est évident que le voleur va voir les portes grandes ouvertes, les fenêtres grandes ouvertes, il n'y a personne dans la maison, il rentre, il vole tout. C'est absolument évident. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à notre Seigneur Vierge Marie qu'elle nous aide à comprendre toutes ces choses-là. Elle est gardienne de la foi. C'est pas rien ça. Elle est gardienne de la foi, pourquoi? Parce qu'elle est mère de Dieu. Et son rôle consiste justement à nous aider à aller au ciel, à nous aider à aller vers son Fils en utilisant la Sainte Église. Nous demandons cette grâce, mes chers frères, de conserver intégralement cette foi catholique pour que nous puissions transmettre cette foi, sauver nos âmes et sauver les âmes de nos enfants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.